je vis ici déjà depuis 18 ans et je suis par mon mariage alliée à toute une famille extrêmement religieuse et très vaste. Eh bien, et j'ai eu beaucoup de rapports avec les milieux religieux, j'ai essayé de ma propre part de me rapprocher d'eux. Et je dois dire que j'ai eu très souvent l'impression que pour quelqu'un d'un milieu extrêmement religieux, les gens qui viennent d'un milieu non religieux n'existent pas, on ne les voit pas. Et ça me paraît une faute énorme. J'ai eu l'occasion d'aller passer plusieurs fois les fêtes dans des kibboutzim religieux, par exemple. Et déjà, à ce moment-là, je leur ai dit, mais sortez, allez nous chercher, appelez les gens, faites quelque chose. Il y en a probablement beaucoup qui voudraient, comme moi, être ici en ce moment, qui voudraient apprendre. Vous ne faites rien. J'ai essayé, je me suis rendu compte à quel point on a... Vous savez, on a l'impression, si je peux mettre les choses au plus sec, que quand on n'a pas eu la chance de naître dans un milieu adouk, eh ben on est très faible. Oui. Il n'y a pas moyen de franchir la haie et de passer.
Et écoutez, vous êtes en plein dans le problème, et vous avez dû remarquer que nous sommes effectivement un groupe qui lutte contre cet état de...
Je suis là depuis 18 ans, et je dois dire que je vous remercie d'être arrivé, d'avoir enfin que Torah et Alia aient enfin fait quelque chose, parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Ça a l'air idiot quand je dis aux gens du milieu que je connais, que je fréquente, que je parle l'hébreu. Quand je dis aux gens que je viens ici, on me dit quoi, tu n'as pas trouvé un autre cours, il faut que tu aies un cours en français. J'ai dit, je regrette. À ce niveau-là, je n'en ai pas trouvé. Du côté hébreu, personne n'a jamais rien fait pour me rapprocher. Oui, j'ai un fils qui a dû faire sa bar mitzvah. Je suis allée voir plusieurs rabbins pour leur demander de s'intéresser à sa préparation religieuse. Je m'y suis pris à l'avance, comme en France, 2 ans avant. Ben, j'ai trouvé personne qui veut s'en occuper. Oui, 3 mois avant. Ça suffit puisqu'il célèbre, puisqu'il apprend la Bible à l'école. Mais enfin, c'est pas du tout la même chose.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir.
Bien sûr. Écoutez, ce que nous avons ramené de la civilisation occidentale, c'est cette...
Non, je n'ai pas pu l'envoyer à l'école religieuse pour d'autres raisons. Mais ça, c'est une autre histoire, disons. Mais qu'il y ait une rupture pareille entre la vie laïque et la vie religieuse, c'est inadmissible.
Oui, écoutez...
L'erreur vient autant de l'autre côté que du refus des laïcs.
Oui,
et le refus des laïcs est peut-être motivé encore plus par le refus des religieux.
Écoutez, on peut dire, si vous voulez, que les torts sont partagés. Mais enfin, ce que nous avons ramené, justement, de la civilisation occidentale, par le fait que les idéologies sionistes de l'origine ont été pensées dans un contexte culturel, d'Europe centrale d'ailleurs, de la lutte entre la libre pensée et le cléricalisme, c'était une affaire goy, mais on a hérité de ces catégories de séparation entre dati et lodati, c'est l'état du problème actuel. Et ça me permet, si vous voulez, de formuler un peu plus quelle est la perspective vers laquelle... que j'essaye de dessiner, de décrire, et qui apparaît invraisemblable dans l'état des choses, c'est ceci. C'est qu'il y a la Torah au-delà de cette dichotomie entre datim et lodatim. Et que les lodatim, à leur manière, par Oroth Shel Mashiach Ben Yosef, sont reliés à la Torah, bien que de façon pas visible. On leur dirait qu'ils diraient, mais de quoi ils parlent ce bonhomme, hein? Et de l'autre manière, les datim sont reliés à la Torah du point de vue des Oroth de Mashiach ben David. Seulement, étant donné cette dichotomie, c'est une unité qui est coupée en deux et qui lutte, dont les deux parties luttent l'une contre l'autre. Alors, ce coup de tabac, cette lutte est inévitable. Elle est inévitable. Et elle se passera, elle commence à se mettre en place. Les escarmouches qu'il y a à Jérusalem n'ont aucun motif réel dans la réalité objective entre datim et non-datim. Ça repose sur rien, vraiment rien. Il suffirait d'un minimum de bonne volonté réciproque de part et d'autre pour que ça s'arrange et qu'il n'y ait pas de problème. Tout se passe comme si c'est un bien qui est un détonateur qui fasse éclater la chose. Enfin, j'anticipe beaucoup. En ce sens qu'il y a la Torah qui est la Neshama d'Israël et son identité est réelle et profonde à l'échelle collective. Mais voilà qu'elle ne se réalise, elle ne s'incarne à l'échelle individuelle que chez ceux qui fabriquent le pays. Ça veut dire la messianité de Joseph, en tant que lodatim, et puis on les aide aussi du point de vue des datim. Et puis que chez ceux qui sont les gardiens des valeurs réelles de la Torah au niveau spirituel, mais qui sont enfermés dans le monde datim, cette Torah a été en quelque sorte éclatée en deux dimensions, la messianité de Joseph, la messianité de David, et ces deux méchérim sont en train de se faire la guerre entre eux. Alors de ce conflit, ce qui éclatera, c'est l'unité de l'identité d'Israël retrouvée. Si vous voulez, pourquoi à l'échelle individuelle les Juifs, alors qu'ils étaient des témoins de la moralité dans la galoute, ici jouent à l'immoralité, c'est parce qu'ils sont coupés de la Torah à cause du fait d'être coupés de la religion. Donc, vous voyez, c'est cette dichotomie-là qui les coupe les uns des autres, et réciproquement. Et inévitablement, ce conflit apparaîtra. Alors de quoi il s'agit? Mais moi, je peux vous dire que dans ce monde d'Ati, qui a d'ailleurs plus que des nuances, des madrigaux très différents, un monde très complexe, se trouve enfermé, mais cadenassé, comme dans un coffre-fort, les valeurs réelles de la Torah. Mais elles sont vécues et non formulées ou formulées de manière absolument inadéquate avec le niveau de l'histoire juive que nous sommes en train de vivre. De notre côté, chez les Lodatim, il y a une bonne volonté et un attachement réel à l'identité d'Israël dont a parlé la Torah, dont ont parlé les prophètes, dont ont parlé les rabbins à travers tous les siècles de la vie juive de la Galoute, mais qui est elle aussi formulée de façon, dans une agressivité négative, de façon absolument inadaptée et inadéquate avec les événements réels de la vie juive dont nous parlons. Mais tout se passe comme si deux pôles sont en train de se mettre en place, et puis qu'il faut que le temps arrive, que le courant passe entre les deux. Enfin, le type d'homme qui sera engendré de ce désordre que nous sommes en train de décrire sera un type d'homme qui aura intégré de façon unifiée et les valeurs qui se trouvent dans le monde d'Ati et les valeurs qui se trouvent dans le monde de l'Odati. Seulement, tout cela, comment dire, est très, très difficile à maîtriser à cause de ce décalage entre l'envergure individuelle et l'envergure collective, c'est-à-dire à cause des catégories qui sont sur les personnes. Bien, voilà un peu ce que le forme pourrait.
Je voulais poser une question, mais revenir en arrière. Je vous avais dit tout à l'heure, si je vous ai bien compris, qu'il y avait eu punition, même si on peut l'appeler ainsi, lorsqu'il y avait eu décalage, entre le niveau collectif et le niveau individuel sur le plan de la morale, n'est-ce pas? Vous avez dit aussi qu'à ce moment-là, le Midrash que Dieu avait frappé les pierres et pas les hommes, parce que sur le plan de la collectivité, il n'était pas question que
de détruire Israël.
Alors, il y a tout de même une question qui me brûle les lèvres, c'est celle de la Shoah. Parce que tout de même, là, est-ce qu'il n'y a pas eu une tentative de destruction sur le plan collectif d'Israël?
Oui.
Il y a eu. C'était plus frapper les pierres seulement, oui. Et.
Écoutez, il y a eu, c'est très délicat de parler de ces problèmes, parce que nous sommes encore en train d'en vivre le souvenir. Et il y a eu une tentative de destruction d'Israël qui est venue d'Egoïm. Mais le résultat est, encore une fois, à l'échelle collective d'Israël, que cette tentative a échoué. Et puis d'autre part, je veux simplement définir cela, puis vous en tirez les implications par vous-même. Il y a eu une tentative de destruction du peuple juif de la Gola. Vers Maskiliavit.
Mais Dieu lui-même a voulu détruire Israël, après qu'il était tellement attaché.
Quand ça?
Quand Moïse parlait en sa faveur.
Vous ne comprenez pas ce que je dis.
Quand Moïse a parlé
en sa faveur. Ailleurs que dans la Gola.
Et il y a eu la tentative de destruction d'un judaïsme qui se voulait être un judaïsme de Gola. J'ajoute un petit peu, mais j'ai pas le droit même d'ajouter tout ça parce que ça a l'air de donner des idées. Je ne peux pas expliquer, simplement prendre acte. Qui vous dit ?
Bonjour. Est-ce que le peuple juif, la partie du peuple juif qui se trouve aujourd'hui, qui se trouve dans le Shrine, est-ce qu'on peut dire que la partie de la reste,
c'est-à-dire, voilà, pour reprendre ces catégories-là, être en galoute, c'est le stade et le temps où l'on ne peut pas revenir dans sa métropole. Dans la mesure où on peut, où il y a une métropole et on peut y revenir, alors on est en diaspora. Par conséquent, en fait, qui sont dans la galoute? sont dans la galoute les communautés des pays dont on ne peut pas sortir. Et les autres? Alors les autres, c'est très ambigu. Ou bien il s'agit d'Israéliens en Hutzlaret, enfin de membres du peuple d'Israël en Hutzlaret, quelle que soit la stratégie politique par laquelle on est citoyen de ceci ou d'autre chose. Hein? Ou bien ils se considèrent en diaspora, mais en diaspora de quoi? S'ils se considèrent en diaspora de l'État d'Israël contemporain, alors il faut régulariser, sous une forme ou sous une autre. S'ils se considèrent comme étant encore la diaspora de l'ancien État de Judée, alors ils sont condamnés, du point de vue de leur identité. Parce que cette diaspora de l'ancien État de Judée a pris fin avec le retour en Israël. Est-ce que vous comprenez, je veux dire, c'est une question de définition d'identité.
C'est individuel, c'est selon chaque être,
Il se considère de plus en plus comme dans la diaspora par rapport à Israël.
Oui.
En plus, il y a une espèce de polarisation par rapport à Israël.
Mais c'est cela.
Sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan financier. Et je pense que c'est en train de régulariser.
C'est cela qu'il faut régulariser, effectivement. Je reviens un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure. Je vous disais, il y a dans le monde des yeshivot, pour les nommer par leur nom, de façon absolument intégrale et sans aucune hésitation de ma part, une quantité d'énergie spirituelle authentique de la Torah qui est indéniable et qui, si elle diffusait dans la société israélienne, transfigurerait le tout. Mais nous sommes encore dans un stade historique où cela est vraiment enfermé, cadenassé, en forteresse et à double tour. Et il faut dire aussi, comme vous le dites, que la plupart du temps, ces hommes ne disposent pas du véhicule de formulation qui leur permettrait de s'exprimer. Vous savez ce que dit la tradition à propos d'Élie le prophète, d'Élie au Nabi, qui doit venir à la fin des temps pour inaugurer le temps messianique? C'est qu'il est chargé de ramener le cœur des pères vers le cœur des enfants et le cœur des enfants vers le cœur des pères. C'est-à-dire, ce qu'il manque, c'est Eliyahu Nabi, c'est-à-dire le type d'homme qui ferait le trait d'union entre les uns et les autres. C'est-à-dire Et littéralement, le Kohen, dans le sens étymologique, vous savez que le Kohen était celui qui unifiait les différentes tribus d'Israël. Et d'ailleurs, même l'étymologie latine donne à peu près la même idée. C'est le pontife. Et le pontife, c'était le préposé au pont, pontifex. Hein? C'est-à-dire, c'est la liturgie du Gesher. Hein? Et le pont, vous savez ce que c'est? Pour aller d'un côté à l'autre, on marche dessus. Alors, il faut ces hommes sur qui on marcherait pour aller d'un côté à l'autre, c'est-à-dire les Kohen. Mais ce type d'homme, finalement, apparaîtra. C'est-à-dire dans leur fort intérieur. Ces hommes qui sont du côté qu'on appelle des datim, qui savent qu'ils ont les valeurs qu'ils manquent à ce peuple de la rue, de la municipalité, si vous voulez, savent qu'elles leur appartiennent et savent que c'est celui-là le peuple. Seulement, ils sont pris dans une fidélité de catégorie de résistance de l'orthodoxie par rapport à l'assimilation qui vient du temps de la galoute. Et inversement aussi, les autres, en tout cas ceux qui sont de bonne foi du côté des Lodatim, savent que ce qui manque, ce qu'il faut en tout cas à la société israélienne pour résoudre les problèmes qui ont été décrits, et il y en a d'autres, on n'a pas parlé des panthères noires, mais c'est le problème finalement essentiel, eh bien, se trouve dans les yeshivot. Seulement, ils sont pris eux aussi dans leur fidélité à l'idéologie X ou Y qui a fait leur sionisme.
Le savent-ils vraiment?
Si, en tout cas, je parle des responsables à un certain niveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'embarras, par exemple, de Golda Meir, lorsqu'elle a donné ses explications de vote, et elle représente une partie importante de tout ce monde-là, et que chaque fois, il s'arrange, elle s'arrange, et le Mahalar s'arrange, pour que ce soit la position d'Atit qu'il combatte, qui passe cependant à la Knesset. Vous avez dû remarquer cela. Et que c'est toujours embarrassé comme explication. Hein? C'est parce qu'il y a une sorte d'intuition profonde de leur part que c'est l'identité d'Israël qui est en jeu et que par conséquent, c'est au fond la position des datis qui doit passer. Et c'est une impasse. Pourquoi? Parce que, et je veux dire peut-être quelque chose d'énorme, Mais à part des exceptions, ni dans un camp ni dans l'autre, on ne parle de la Torah en tant qu'identité d'Israël et à ce niveau-là, mais on parle d'une religion, qui est le Shulchan Aruch de la Torah, ou d'une histoire nationale, qui est l'histoire de la Torah. Mais de se rendre compte de quoi il s'agit vraiment, on n'ose pas, ni d'un côté ni de l'autre. Sauf dans les milieux où, je vais dire ça encore sous une autre forme, où on ose prendre le problème à la hauteur, c'est-à-dire qu'il s'agit, selon l'enseignement traditionnel, non pas d'une religion parmi les autres qui serait la meilleure, non pas d'une nation parmi les autres qui serait la meilleure, mais du sens de l'histoire humaine globale depuis l'histoire des commencements, telle qu'elle se joue à travers l'histoire d'un peuple qui s'appelle Israël et qui est l'Israël de la Bible, c'est-à-dire au niveau de la Torah, comme je vous l'ai dit. Ou d'une autre manière, je vais peut-être anticiper sur un autre chapitre, la raison pour laquelle les datim et les lo-datim ne se comprennent pas, c'est parce que ni les uns ni les autres ne sont kabbalistes. Voilà, enfin, je vous ai lancé un pavé énorme dans la... C'est-à-dire, ce qui les définit ensemble dans un problème insoluble, c'est que ni les uns ni les autres ne sont dans la Kabbalah. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où ce dont il s'agit, tant au niveau de l'histoire politique que de l'histoire religieuse, serait formulé en termes de Kabbalah, alors ils comprendraient pourquoi ils ne se comprennent pas et pourquoi ils sont ennemis. C'est parce qu'il leur manque la même chose aux uns et aux autres, c'est pourquoi ils sont à l'envers les uns des autres.
C'est en effet quelque chose de très curieux. Une des premières choses qui m'a frappée quand je suis arrivée ici, j'ai vécu dans une toute petite baraque, dans ce qui est aujourd'hui presque le centre de Clébrac. Il y a 18 ans, c'était pas pareil. Oui. Et je me rappelle le jour où on a inauguré une synagogue dans ce quartier, en bas de ce qui allait être le Clébrac développé aujourd'hui. Les membres de la Histadrout sont venus en grande pompe avec un drapeau rouge et ils ont pris les Torahs et ils ont dansé avec les Torahs avec d'autres gens.
Ouais.
Pour moi qui arrivais de France, c'était un peu dire un coup de massue sur le crâne. J'étais suffoquée par une chose pareille. Depuis, j'ai eu l'occasion de connaître les gens de la Histadrout d'un peu plus près. Je ne parle pas des jeunes membres d'aujourd'hui, je parle des gens qui sont parmi les fondateurs de la Histadrout, des gens plus âgés. Au fond, quand ils ont l'occasion de vous prendre à part 5 minutes, avec quelle joie ils vous disent leur trou de l'oreille qu'eux, ils ont été élevés au Reder.
Oui, c'est juste. C'est juste, enfin, mais c'est une époque dont il va falloir tirer le bilan. Voilà, c'est tout un... Je vous raconte une petite histoire, mais personnelle, mais enfin, vous la garderez pour vous, c'est une anecdote, simplement qui illustrera le problème. Vous savez qu'il y avait tout un sursaut très compliqué avec l'histoire de l'enseignement religieux. Le gouvernement avait failli sauter. Enfin, tout ça, il y avait des dessous de cartes. C'est très compliqué. Enfin, il existe ce qu'on appelle Agaf Chinuch Adati. C'est-à-dire la branche Chinuch Mamlakhti Dati. Alors, il y a une commission du Chinuch Mamlakhti Dati qui a la responsabilité non seulement des programmes, mais de l'organisation de tout l'enseignement religieux, et qui est sous le tipoule direct du ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, qui lui n'est pas d'Ati, mais enfin, il est responsable de ce cas. Bon, alors il est arrivé que j'ai été nommé à cette commission. Je ne sais pas comment c'est arrivé, enfin, peu importe des péripéties, mais comme je ne fais pas partie d'un parti, ni d'Ati, ni d'Ati d'ailleurs, alors, il n'y a pas eu d'autre solution que de me nommer représentant personnel du ministre dans la commission. Et, je ne sais pas si vous avez besoin. Bon. C'est énorme, enfin. Sans aller beaucoup plus loin, c'est pour vous indiquer à quel point l'état de cloisonnement de Miflakti de ce pays pose l'état des problèmes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à part des exceptions de perversion à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, tous les partis, sous forme plus ou moins évidente, sous forme plus ou moins cachée, sont reliés à la Torah dont nous parlons et à son histoire et à sa messianité et à sa réalisation. Et pour que cette évidence d'unité éclate, c'est la deuxième chose que j'avais ajoutée un peu comme ça, sous forme de bombe, il faut que les Juifs d'Israël apprennent à parler le langage de la Kabbalah pour qu'ils puissent se comprendre. C'est-à-dire d'arriver à deviner que derrière leurs oppositions d'idéologie, goy, cléricaux contre socialistes, tout ça c'est goy, n'est-ce pas ? C'est ramené du monde goy, que derrière ces oppositions de fausse fidélité finalement, il y a une identité commune à laquelle ils collaborent, et à ce moment-là, ce sera le stade où la Torah pourra s'incarner dans la société d'Israël. Et alors là, il y aura cette espèce de transfiguration de l'individu qui monte. Comment ? Oui.
Mais c'est annulation.
Je vois par exemple le cas de mon mari qui n'est pas d'Assyrie. La petite va à Gan, une petite fille de 3 ans qui va au Gan, qui apprend au Shabbat à allumer les bougies. Elle est partie passer un Shabbat chez ses grands-parents. Elle s'est rappelée que le vendredi soir on allume les bougies. Elle a demandé à mémé, donne-moi des bougies, donne-moi de l'info, je vais allumer les bougies. J'ai allumé les bougies, mes beaux-parents ne sont pas religieux. Jamais rien fait. Ils étaient émerveillés de voir la petite bougie et ils sont venus en amenant ça à la maison. Sur ce, mon mari me dit : oui, mais c'est du bourrage de crâne. La petite, elle n'y comprend rien, elle fait ça, c'est du bourrage de crâne. D'un autre côté, quand il y a des problèmes religieux à la maison également, d'un autre côté, quand on essaye de faire quelque chose de à tendance religieuse, mon mari dit : mais oui, mais moi je n'ai jamais appris. Je ne sais pas ce que c'est, alors ça ne sert à rien, je ne veux pas faire. Donc c'est justement, à l'échelle individuelle, il y a quand même ce problème.
Bien sûr.
Il n'a pas appris, il voudrait savoir. Et parce qu'il ne sait, il n'a pas appris, il ne veut pas faire, mais il ne veut pas qu'on apprenne pas. Parce que
C'est ça. C'est ce que j'ai failli vous répondre tout de suite au début. Oui, mais pourquoi? Les problèmes en sont à l'échelle individuelle? C'est parce qu'à l'échelle globale et collective, la Torah n'est pas formulée. Hein. Ben, je veux dire d'une autre manière. À partir du moment où l'État d'Israël, nous sommes certainement en train d'anticiper sur les étapes suivantes, mais c'est aussi inévitable que les étapes que nous avons vécues. Nos parents d'il y a des générations précédentes, si on leur décrivait les résultats auxquels l'histoire d'Israël est arrivée, n'y auraient pas cru. Lorsque leur rabbin leur dirait, vous verrez ce qui va arriver quand ça arrivera. Alors c'est un peu, si vous voulez, dans la lancée de cela que je vous décris ce qui est censé arriver. C'est-à-dire, à partir du moment où l'État d'Israël, comme tel, comme identité collective, et dans toutes ses instances, se rendra compte que son identité consiste à être la société de la Torah, alors à ce moment-là, ça finira par se répercuter aussi à l'échelle individuelle. Tout ce que je pourrais dire, mais c'est très dangereux de s'exprimer ainsi, parce que ça a l'air d'être un alibi pour toutes pour tous les cas individuels, et Dieu sait qu'il y a des individus de mauvaise foi, tout le monde n'est pas de bonne foi. C'est que nous sommes dans un stade que la Gemara nomme, désigne par l'expression de Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, ça veut dire, c'est le cas d'un bébé d'une famille juive qui a été volé par des bohémiens, et puis qui a eu une éducation de bohémien. Et ensuite, arrivé à l'âge adulte, il découvre qu'il est Israël, et puis des myriades de Tinokot de ce genre se sont réunis, découvrant qu'ils étaient Israël pour faire Israël, mais avec un contenu qui vient des bohémiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où, par conséquent, il y a une sorte d'irresponsabilité collective, mais à partir du moment où cette impasse-là éclatera, alors se produira cette espèce de transfiguration dont je vous parle. Je vais essayer de vous la décrire d'une autre manière. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la guerre des Six Jours? Il s'est passé un événement qui est comparable à ce qui s'était passé au pied du Sinaï. C'était la première fois depuis très longtemps que le peuple juif tout entier, quelle que soit la manière individuelle de se définir comme juif, s'est retrouvé uni autour de l'identité d'Israël. Ensuite, ça s'est atténué. Après le Sinaï, il y a eu Vodor. Après, effectivement, ça s'est atténué. Mais déjà, à l'époque, nous avons vécu une espèce de moment de paroxysme, de réidentification au niveau national. C'est bien clair. Je me souviens, nous étions en France à l'époque, il y avait des juifs de toutes les nuances, de la gauche, du centre-gauche, de tout ce que vous voudrez, enfin c'était tout l'éventail politique. Et puis quelque chose s'est passé au moment de la guerre des Six Jours qui a fait qu'il y a eu une transfiguration d'identité. Ceci s'est passé par rapport au peuple. Ça s'était passé en 48 par rapport à la terre. Et puis il y a donc un troisième stade qui va arriver et où il y aura ce déclic de transfiguration par rapport à la Torah. Ça ne se passera pas sans convulsion, ça ne se passera pas comme... imaginez le genre de personnage impossible à définir que nous représentons chacun. Je vous ai décrit mon cas sur ce problème. Je suis le représentant personnel du ministre Lodati de l'Éducation nationale à la commission d'enseignement religieux. On se bat. C'est pas ça. Ça se passera dans des convulsions, mais il est inévitable que nous dépassions cela. Enfin, pour revenir, si vous voulez, Comment? Oui, je ne voulais pas encore vous ajouter les autres invraisemblances. Rolé Hadas, francophone, Sfaradi, nommé Ashkenaz.
Et surnommé Manitou, ce qui n'est même pas.
Je ne sais pas si vous imaginez, c'est bien Tabassillard, tout ça. Et nous sommes en langue. Oui, c'est possible. Pour revenir à un plan concret, alors je profite de ce que vous avez dit, il est absolument évident que nous représentons peut-être sous forme de préfiguration un genre de milieu dont l'hérédité ou dont l'éducation ou dont la forme de militantisme a été au-delà de ces catégories, de ces dichotomies, enfin de ces oppositions. Nous sommes un certain nombre à être complètement insensibles. Je dirais, tout en prenant au sérieux les problèmes que ça pose, à être complètement insensible à ces oppositions d'Attil, gens du Nord, gens du Sud. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas réels, mais je crois qu'il faut faire boule de neige. Et à partir du moment où nous arriverons à obliger, parce que finalement c'est ça que FIA, c'est Ezra Milachamaïm, à obliger des rabbins à sortir des yeshivot pour enseigner à des lodatim sortis de leur istadrout, et lorsque le pont se fera, eh bien, c'est comme ça que ça se fera.
Rabat, ils ont commencé.
Oui.
Rabat ont commencé. Ça se fera peut-être, parce que cette même Istanbul organise des cours professionnels, par exemple, celui que j'ai suivi est introduit de Zecker. Eh bien, le directeur du cours m'a dit en m'inscrivant, et vous savez, nous allons avoir parmi ces cours, des cours de Yahadout. J'espère que ça ne vous choque pas, c'est un rabbin qui m'a fait vous les faire.
Oui.
C'est un rabbin qui venait à la Yahadout nous faire ses cours.
Oui, mais d'ailleurs, oui. Enfin...
Non, mais ceci pour vous dire de la teneur de ces cours. Les cours ont eu lieu et il y avait des problèmes de classement qui se posaient, par exemple, classement de livres, classification de livres, n'est-ce pas? Et on nous a bien expliqué qu'on a été obligé de refaire le système de classification du oui, j'entre dans des données tout à fait professionnelles, de le refaire ici à Jérusalem, car la manière de non pas seulement d'enseigner, la manière de considérer Shkafot HaChaim Ba'aretz et de la manière juive, il y a des quantités de choses qui ne peuvent pas être séparées. Ce qui est religieux et laïque, en fait, c'est une notion qui, justement, une double notion qui n'existe pas dans le judaïsme. Donc la classification des livres juifs est absolument... Ça ne peut pas être séparé de la même manière que dans les pays où il y a le religieux d'un côté et le laïque de l'autre.
Oui. Oui, c'est exact. Bon, et voilà. De toute façon, c'est un peu, si vous voulez, c'est arrivé sans être prémédité, mais enfin, c'est un peu l'idéologie de notre groupe. Et ce qu'il faut, c'est que, d'abord, ça fasse tache d'huile, et puis c'est une sorte de mentalité à laquelle il faut s'habituer. Alors, bien entendu, ça ne peut être efficace qu'avec des gens de bonne foi. Tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est pas du tout un alibi pour ne pas être pratiquant. Et inversement, ce n'est pas non plus un alibi pour les pratiquants pour ne pas être insérés dans le combat de la société israélienne contre le monde entier, finalement, au niveau de la vie politique. Enfin, simplement, je voulais vous dire qu'il existe une cohérence qui nous permet de comprendre que nous sommes effectivement en un stade de notre histoire où la galoute est en train de prendre fin, où l'identité juive de la galoute est en train de prendre fin dans les Hevelé et Leda que nous avons décrit, et où le temps de la Géoula est en train de commencer. Ce qu'on peut garder, en tout cas comme assurance provisoire, c'est que à l'échelle collective, comme je vous l'ai dit, c'est absolument indéniable et irréversible, et qu'un combat doit commencer et commence pour que cela imprègne notre identité à l'échelle individuelle. Bien. Alors, si nous devons nous rencontrer pour le mois d'août, vous serez averti